Mon cher Alain Damasio, avouez-le, c'était mieux avant, n'est-ce pas ? Écrivain à succès de science-fiction, vous pouviez imaginer des univers contrôlés, des sociétés mises sous cloche, des citoyens marchant au pas, ou presque. Pas de risque d'être concurrencé par la vraie vie.
Alors il y a une jouissance là-dedans, évidente.
Mais la pandémie, ces virus mutants, ces laissez-passer, la surveillance généralisée, vous enlèverait presque le pain de la bouche. La SF, aviez-vous dit, en amateur de néologisme et de mots rares, est un moyen d'impuissanter le réel.
Ça, c'est les écrivains, on s'éclate, on fait des trucs comme ça.
Nous y sommes. Mais que faire si le réel est déjà puissant? Et d'abord, que vous a-t-il fait pour que vous vouliez lui échapper? Repartons du début. Né Alain Raymond à Lyon en 1969, d'un père carrossier et d'une mère prof d'anglais, vous pratiquez le foot à un bon niveau avec votre frère. Ténébreux et timide, vous écoutez de la New Wave. Vos parents divorcent. Un grand choc, dites-vous. La vie s'ouvre en deux. HLM avec papa à Oullin, pavillon avec maman à Saint-Genis-Laval. Gringalet et bon élève, vous arrêtez le foot. Devenir professionnel, c'est plus dur que d'être écrivain, affirmez-vous. Classe prépa, HEC et SEC, trois années en porte-à-faux. Une nouvelle fois, le réel vous déçoit. Vous découvrez Nietzsche et Deleuze, vous fuyez ce cocon gluant. Vous fondez un bureau d'études socio-économiques pour assurer votre subsistance et vous vous lancez dans l'écriture. Votre premier roman sort en 1999, Dans l'indifférence. Aujourd'hui, auteur à succès, vous continuez de batailler contre le monde imparfait. Avec les zadistes et contre Macron, avec les gilets jaunes et contre les violences policières.
Je considère que l'écrivain de science-fiction, bon, d'abord, il est là, non pas pour anticiper, mais pour décrypter le présent.
Foutu réel. Au choix, il vous navre ou vous exalte. Mais mon cher Alain, il restera toujours la science-fiction pour le façonner à votre guise.
Alors Alain Damasio, Scarlett et Novak, c'est donc ce récit, c'est une remise en cause de notre dépendance aux nouvelles technologies, aux smartphones. Votre personnage Novak, il est totalement dépendant de cette intelligence artificielle, de son smartphone qui s'exprime par la voix de Scarlett. Il peut même pas se déplacer, se repérer dans la ville sans ce smartphone. Il a en quelque sorte tout oublié, il ne pense plus par lui-même. Est-ce que nous sommes drogués à ce point-là? Est-ce que nous sommes aussi dépendants que cela de nos smartphones? Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en avez pas, vous, Alain?
Oui, c'est ça. Mais la capacité de l'auteur, c'est toujours de se mettre à la place des autres. Moi, c'est marrant, parce que ce texte, au départ, il est écrit en 2014. La première version, je l'ai fait en 2014. Donc, quand je le reprends en 2021, je me suis rendu compte qu'en 7 ans, je me suis juste rapproché du mur du réel. C'est-à-dire, ce que je décris, c'est quasiment ce qui se passe aujourd'hui au quotidien. C'est-à-dire une addiction généralisée de la population à ses moyens effectivement, de structurer son agenda, d'accéder à la culture, de travailler, de draguer, de séduire.
C'est que négatif. C'est un outil qui...
Non, c'est un outil qui est incroyable parce qu'il nous donne du pouvoir. C'est un outil qui nous donne du pouvoir, qui outille nos paresses, qui outille nos capacités, etc. Le problème, c'est qu'on ne voit pas que derrière ce pouvoir qu'il nous donne, ça nous retire aussi de la puissance. Et moi, je fais vraiment la distinction entre les deux. Pouvoir, puissance. C'est-à-dire que la puissance, c'est ce que tu peux faire directement. Le pouvoir, c'est ce que tu fais faire à une machine. Et plus tu fais faire la machine, moins tu deviens capable de le faire toi directement.
Et donc vous résistez toujours à la machine, Hélène.
Et d'ailleurs, on le voit avec votre personnage principal, hein, Novak, quand il se fait voler ses Google Glass, ses lunettes connectées, Renaud le disait, il ne connaît même pas le nom des rues, il n'arrive même pas à rentrer chez lui, il est complètement perdu, il n'a pas de digicode, il n'a plus de clé, tout est connecté. Vous parlez souvent d'un techno-cocon, c'est une bulle qui a servi, qui abétit. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Moi j'adore, c'est l'idée qu'on est dans les réseaux, donc on est dans un cocon numérique, on est même dans une sorte de chrysalide de fibre optique, moi je le vois de façon très, très matérielle. Et à l'intérieur de ce cocon, on est choyé. C'est-à-dire qu'on est bien, le monde nous est filtré, les images nous arrivent filtrées, on peut filtrer les messages, on peut filtrer les SMS, on peut tout filtrer, on peut filtrer nos communautés. Et on est à l'intérieur, abrité dans ce monde-là, et de ce monde, on essaye d'accéder un peu à l'altérité au dehors, mais toujours protégé par ces interfaces. Et du coup, ça, c'est très nouveau, d'être interfacé en permanence avec le monde. Quand tu regardes le nombre d'heures que tu passes par jour où tu es interfacé par un écran, il est colossal. Plus de la moitié de la vie éveillée se passe interfacé par cet écran. Et donc, ça crée effectivement autour de nous un cocon. Moi, j'aime bien cette idée.
C'est
pas désagréable, au contraire. C'est pour ça que c'est addictif.
Ouais. Ce qui est assez étonnant, aussi addictif, il y a beaucoup de fans de science-fiction qui sont justement addicts à la science-fiction. Et pourtant, c'est un univers toujours sombre la science-fiction, quel que soit l'auteur.
Ah non, en fait, mais...
si vous vous inscrivez dans cette tendance aussi, vous êtes sombre.
Ouais,
aussi,
oui, non, dire. Parce que dans Les Furtifs, moi, par exemple, si tu prends Les Furtifs, il y a.
C'est votre best-seller.
Ouais, on a dans ce roman, il y a un tiers, on va dire, de dystopie, de vision cauchemardesque, un peu. Et il y a deux tiers pour moi d'utopie, vraiment de vision positive. Et plus ça va, d'ailleurs, plus j'avance en âge, plus je développe la vision alternative et positive. Parce que je trouve que la science-fiction, comme vous le dites, a passé beaucoup de temps à essayer d'imaginer le pire, à extrapoler les tendances les plus mortifères, les plus graves, les plus toxiques. Et on crée un effet de complaisance en réalité. On acclimate les gens au pire et les gens se complaisent dans une espèce de catharsis sur ce négatif. Et moi, ça m'énerve maintenant. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie plutôt de dire, bon, OK, voilà les horizons de désir vers lesquels on peut aller et j'essaye de changer. Mais c'est vrai que Scarlett et Novak obéit encore à ce...
Scarlett et Novak, c'est pas très...
On est d'accord, on est d'accord.
C'est pas très optimiste, effectivement,
sur l'avenir. Non, mais il y a quand même un retournement à la fin.
On va pas vendre la fin. Vous adressez plus particulièrement aux jeunes générations. C'est vraiment un roman pour les adolescents. Ça veut dire que c'est eux qui sont en première ligne, justement, qui sont les plus menacés par cette dépendance-là.
Parce qu'ils sont natifs, c'est vraiment les digital natives, parce qu'ils sont nés à l'intérieur des réseaux, ils sont nés avec un smartphone quasiment dans la main ou une tablette. Donc eux, ils n'ont absolument pas le recul critique que nous, on a pu avoir. Moi, j'ai rencontré ce monde en 95, en gros, j'avais 25 ans. Donc j'ai connu les deux mondes, ce qui fait que je peux avoir une distance critique plus facile. Quand tu es né à l'intérieur, qu'est-ce que tu arrives? Moi, je vois, j'ai une fille de 10 ans, de 13 ans, ils arrivent, tout ce qu'ils voient, c'est ce que ça leur ouvre. Ils voient l'émancipation que ça leur donne. Et la première émancipation, d'ailleurs, c'est d'écouter de la musique, d'accéder à des 50 millions de titres. Et tu ne peux pas leur empêcher de dire, ouais, c'est extraordinaire, je peux découvrir un tas de choses. C'est après que viendra l'aliénation. Au début, c'est une ouverture. Tu peux pas leur...
Voilà, justement, Alain Damasio, vous dites qu'ils sont nés, ces jeunes, dans ce monde-là. On a une archive à vous montrer, précisément. Et c'est un homme qui a changé nos vies.
Et qui a tout changé. Quoi qu'on en pense, il y aura un avant et un après Steve Jobs, le patron d'Apple, grand visionnaire, génie du marketing, répond à Antenne 2 le 7 avril 1984. C'est sa toute première interview en France. Il explique alors pourquoi la France a plus de mal à avoir d'aussi grosses entreprises que les États-Unis. Je vous propose de le regarder.
En Europe, l'échec, c'est très grave. Si en sortant de l'université, vous loupez votre coup, cela vous suit toute votre vie. Alors qu'en Amérique, à Silicon Valley, on passe son temps à échouer. Quand on se casse la figure, on se relève et on recommence. Ce qu'il faut pour que l'industrie informatique se développe en Europe et en France, c'est une solide industrie du logiciel. Parce que le logiciel, c'est le pétrole des années 80 et 90. Et la France pourrait dominer l'Europe dans le logiciel. Elle a les étudiants les plus brillants, une bonne maîtrise de la technologie. Ce que nous devons faire, c'est encourager les jeunes à créer des sociétés de logiciels. Nous ne voulons pas mettre la main dessus. Le gouvernement ne doit pas non plus tenter de le faire. Elles doivent appartenir à ceux qui prennent des risques.
Un discours qui peut presque nous faire sourire aujourd'hui, où Apple est roi, Steve Jobs, l'inventeur du télétravail, de la connectivité partout, tout le temps. Alain Damasio, vous êtes critique, mais j'ai l'impression que sur Steve Jobs, vous êtes un peu partagé entre fascination et répulsion.
Oui, parce que pour moi, ça fait partie des gens qui ont changé effectivement nos vies. C'est indiscutable. C'est-à-dire qu'on parle souvent des politiques, des présidents, et puis on croit que l'histoire est faite par les présidents ou par certaines figures politiques importantes. Moi, je crois que depuis une trentaine d'années, l'histoire est faite par les capitaines d'industrie. L'histoire, elle est faite par Google, par Apple, par Facebook, par Amazon, par la Silicon Valley. C'est eux qui ont modifié, altéré, changé, bouleversé nos pratiques quotidiennes le plus fortement du monde. Quand on regarde de quelle façon on vit aujourd'hui, qui a changé ces vies-là ? C'est des gens comme Steve Jobs. Steve Jobs, c'est le premier qui dit « Attention, vous, les ingénieurs, vous êtes bien gentils, mais on va d'abord voir les pratiques des consommateurs, ce que les consommateurs ont besoin, de quoi ont-ils besoin ?»